Polyplaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. C'est Raymond, thérapeute, que je reçois aujourd'hui. Il réagit au document « Ce que les professionnels en psychologie devraient savoir du polyamour ». Texte très intéressant de Weitzmann, visible sur le site polyamour.be. Voici donc la première partie de deux émissions radio consacrées à ce vaste sujet. Dans un mois, la suite en diffusion sur Radio Campus ou sur polyamour.be.
Je suis psychothérapeute, je suis également formateur de psychothérapeute, ou plus précisément de life coach, donc d'accompagnateur de vie. Alors voilà, je forme des gens, j'en écoute d'autres. Mes études, j'ai étudié la psychopédagogie, j'ai une licence, j'ai étudié l'anthropologie sociale et culturelle. Je n'ai pas rencontré des gens qui avaient des difficultés à s'affirmer dans différentes relations. Maintenant, avec le qualificatif polyamoureux, on est dans une autre image, mettons. C'est-à-dire que apparemment, dès que le mot a été trouvé, il y a une série de gens qui veulent se mettre dans une catégorie, tout comme les homosexuels, tout comme je sais pas moi les sadomasochistes, tout comme tous ces gens-là. Donc, ça devient une catégorie à part, et alors il faut comme défendre sa catégorie, faire un coming out, se montrer polyamoureux. Et là, à la fois c'est peut-être une bonne chose, à la fois ça me fait sourire. Parce que je ne crois pas que c'est quelque chose de nouveau. Je crois que le phénomène est extrêmement ancien et que ce n'est que très récemment que c'est devenu une catégorie. Donc je crois que les difficultés viennent de cette catégorisation.
Et au niveau donc de ce document que je t'avais aussi proposé de lire un petit peu, quelle a été ta première réaction en lisant ce texte ?
Ils disent, par exemple, je crois dans la première analyse, qu'il y a 47% des psychologues qui sont réticents. Je me dis, bon, donc il y en a 53% qui ne le sont pas. Dans un deuxième calcul, je crois qu'il devait aussi y avoir quelque chose comme plus de la moitié des psychologues qui regardent ça avec un bon œil.
Oui, donc tu fais référence à Himer et Rubin ici, qui disaient que 24% des psychologues craignent l'engagement, enfin disent que c'est des gens qui craignent l'engagement. 15% disent que le mariage ne marche sans doute pas et que c'est pour ça qu'ils choisissent le polyamour. 7% disent que les problèmes d'identité. 30% disent qu'il y a des désordres de la personnalité ou sont antisociales à 20%. Voilà, des quelques chiffres.
Oui, mais la plupart des psychologues, je crois, ne font pas fort attention à ça. Et ce que notent les autres psychologues, c'est peut-être bien vrai. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui se déclarent polyamoureux parce qu'ils ont peur de s'engager. Avec une seule personne. Donc, c'est difficile à dire. Je crois que la plupart des psychologues sont plutôt ouverts à cette idée-là. Pour la bonne raison, je crois que nous sommes tous polyamoureux dès le départ. À la base, tout être humain est polyamoureux. Il est amoureux de sa mère, il est amoureux un peu de son père, il est amoureux de ses frères et sœurs, il est amoureux de ce qui l'entoure, de son chien, du chat qui court par là, de tout ça. Et puis, par après, on lui demande de se situer, une fois qu'il a atteint, disons, l'adolescence, etc., on lui demande de se situer sexuellement, et alors il se déclare monogame. Donc, dans notre culture, parce que c'est prévu, la monogamie est prévue dans notre culture. Mais au départ, nous sommes polyamoureux. Alors, il y a une grande confusion dans tout ce qui est polyamour entre ce que le mot dit, amoureux, et sexualité. Et alors on confond les deux, et ça c'est typique de notre culture de la consommation. Il faut consommer l'amour. Et la consommation de l'amour, c'est la sexualité. Bon, donc on va avoir le polyamoureux qui doit se déclarer sexuellement également polyamoureux. Pourquoi ? Ne peut-on pas être amoureux comme ça d'une série de gens et d'avoir, par exemple, une compagne privilégiée, ou peut-être plusieurs, mais voilà, donc une compagne privilégiée, et être amoureux par ailleurs du monde et d'un tas d'autres gens. À ce moment-là, on est normalement polyamoureux et sexuellement plus ou moins donc casé chez l'une ou l'autre personne, voire plusieurs personnes. Donc c'est toute autre façon de présenter le polyamour, le présenter comme naturel. Et je dirais que le couple qui n'est pas polyamoureux, je ne vois pas comment ils font. Ils sont polyamoureux exclusifs. On pourrait dire ça comme ça. Alors, il y a des polyamoureux exclusifs et des qui ne le sont pas. C'est-à-dire toute la problématique du polyamour, je crois, est venue de la sexualité, de la part de la sexualité, où on a détaché il y a quelques années le sexe et le genre de la personne. Alors on peut être de sexe masculin, mais d'un genre plus féminin. On peut être d'un sexe féminin, mais d'un genre plus masculin. Donc le sexe et le genre ont été séparés. À partir de ce moment-là, on a découvert un tas de sexualités alternatives et la personne a dû se situer dans une forme de sexualité. Bon, maintenant, notre culture n'est pas encore du tout prête à jouer ce jeu-là. Hein, parce que la société est structurée d'une certaine manière, l'entreprise, etc. Enfin, tout est structuré d'une certaine manière. Les rôles des femmes et des hommes sont encore fort affirmés. Hein, encore que c'est en train de diminuer, mais les rôles, pour l'instant, en tout cas, sont encore fort affirmés. Et c'est de ce coin-là, de cet angle-là, qu'est venue toute la problématique du polyamour. Hein, donc, une femme, qu'est-ce qu'elle est supposée faire ? Un homme, qu'est-ce qu'il est supposé faire ? Et on prend la femme comme un bloc et l'homme comme un bloc avec une série de comportements prévus, précadrés. Or, maintenant, tout ça est en train d'éclater. Et alors, bon, donc, se développe une série de sexualités tout à fait originales. Hein, on peut être à la fois de sexe masculin, mais avoir une tendance vers les hommes, on appellera ça, donc, par exemple, de l'homosexualité. Hein, voilà, mais c'est... Si on sépare sexe du genre, on a un florilège de sexualité qui s'ouvre. Et ça, ça pose problème, parce que la société tient les gens par leur sexualité. C'est-à-dire Foucault a défendu l'idée assez longtemps, hein, dans ses traités sur la sexualité. Donc, on est tenu, sans le savoir, par notre sexualité. Tu es un homme, voilà ce qu'il faudra que tu fasses, voilà comment il faut que tu te comportes. Et maintenant, ben voilà, ça a éclaté. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse transformation. Depuis Freud qui a libéré l'inconscient, la prochaine grande transformation, il a ouvert, disons, le monde à la sexualité, la prochaine grande transformation est celle qu'on commence maintenant, en détachant le genre du sexe et en s'affirmant chacun dans sa sexualité originale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme dire « j'ai une personnalité originale qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la tienne ». Hein, bon. Donc, on s'affirme comme être humain, comme individu. Et bien maintenant, dans l'individu vient s'ajouter, on s'affirme dans sa sexualité qui est très particulière et qui ne ressemble à aucune autre. Donc, et alors, de nouveau, la société a tendance à créer des catégories. Et parmi ces catégories, il y a le polyamour qui figure une catégorie assez libre, je dirais, assez ouverte.
Être polyamoureux platonique, en fait, ça ne pose pas de problème à grand monde.
Non, je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. On aime ses enfants, on aime ses parents, on aime ses amis, on aime un tas de monde, on aime ses animaux, on est polyamoureux dans ce sens-là aussi, on aime le monde. Hein, une ouverture au monde qui nous rend polyamoureux du monde. Donc je crois que dans le côté platonique, tant que la sexualité n'est pas mêlée, il n'y a aucun problème avec le polyamour. Au contraire, c'est encouragé. Christ était un polyamoureux. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est du polyamour. Avant la lettre, il n'a pas dit « baisez-vous les uns les autres ». Bon, maintenant, on a transformé à « aimer » en « baiser ». Il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux choses. On peut aimer bien quelqu'un sans vouloir pour autant le pénétrer ou sans être pénétré par lui. C'est quand même...
Enfin, le monde monogame propose un modèle dans lequel la société s'inscrit depuis pas mal de temps et généralement qui est cohérent avec un mari à la maison, un patron, un dieu à vénérer et puis un modèle, le capitalisme économique... Et donc, est-ce que cette colonne vertébrale, pour toi, a du sens de haut en bas ? Et est-ce que être polyamoureux serait une façon d'aller vers des nouveaux horizons qui pourraient permettre d'autres modèles politiques aussi ?
J'en suis persuadé. Moi, je démarre de l'idée, comme je l'ai dit tout à fait au départ, que la monogamie, mettons, est un cas exceptionnel de la polygamie. Donc, au départ, on est polygame. Comme au départ, les gens ont beaucoup de dieux, ils attribuent une déité à tout ce qui vit, à tout ce qui a de l'âme, tout ce qui est animé, qui a de l'âme, donc, mérite le nom d'un dieu. Et chez les Grecs, on trouve dans leur mythologie encore le dieu du vent, le dieu de l'eau, le dieu de l'air, enfin, des choses comme ça. Et ce n'est que par après qu'on vient avec l'idée que, et si on réunissait tous ces dieux en un seul dieu, jusque-là, c'est bien, si on le voit de façon composite, mais alors, rapidement, tout ce côté composite disparaît, et puis ce un seul dieu s'impose comme un homme barbu. Bon, là, on est parti dans un drôle de trip, hein, dans les religions du livre, etc., qui vont nous enfermer dans un seul modèle qui était supposé regrouper tous les autres, simplifier, si on veut. Mais, c'est-à-dire, il y a un gros problème. C'est plein de petits dieux qui se sont rassemblés pour former un grand dieu. Et puis, on ne veut plus reconnaître la multiplicité dans l'unité. Alors ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, ça va comme la respiration. Hein, de la multiplicité, on va vers l'unité. De l'unité, on devrait pouvoir aller souplement vers la multiplicité. Ce qui ne se fait pas. On est resté coincé dans l'unité, dans le faire tous pareil, être conforme, dans la conformité, dans ce qu'on parlait de nouveau en termes d'informatique, là, la formatisation. Je crois que j'avais écouté une des émissions où on parlait de la formatisation ou un truc comme ça. C'est vrai qu'on est formaté. Hein, mais formaté, ça veut dire unifier quelque chose dans un gros système, alors que quand on regarde bien, c'est toutes des choses absolument très différentes, séparées, qui se réunissent.
On pense à Descartes, évidemment, dès qu'on pense à ça.
On pense à Descartes, on pense surtout au siècle de Descartes, au XVIIe siècle, où l'Occident s'est réuni d'une certaine manière pour aller à la conquête du monde. Mmh. Hein, donc, aussi l'Occident plutôt a fait une grande distinction entre l'esprit et le corps. Donc l'esprit a regroupé ce qui était de l'âme antérieurement, et puis le corps. Ben, dès qu'on sépare ces deux choses, dès que l'esprit est séparé du corps, ben, on est dans la création de systèmes unitaires, univoques, qu'on n'est plus en contact avec la multiplicité que représente le corps.
Et donc tu parles du corps, évidemment, moi ça me ramène tout de suite par exemple à Michel Onfray dans un de ses derniers livres que je suis en train de lire et qui démontre clairement dans les faits historiques qu'en fin de compte le corps a été pris en otage par la religion, a été, bon ben, d'abord on vénère quelqu'un qui est en pleine souffrance, qui est crucifié, enfin mais au-delà de tout ça il y a Saint Augustin qui a fait quand même tout un travail assez horrible de culpabilisation du corps, du rapport où l'âme, quelque chose était supérieur parce que transcendantal, proche de Dieu, donc il fallait souffrir, se flageller pour approcher Dieu. C'est une vision des choses qui a fait pas mal de dégâts.
Tout à fait, c'est-à-dire que ça se dégage lentement, hein, quand on parle de Saint-Augustin, etc. Chez lui, l'âme est encore plus ou moins unitaire, mais il y a un côté bas de l'âme, il y a un côté haut de l'âme, il y a déjà certains Grecs en parlaient aussi, hein, côté bas, un côté haut, et le côté haut, on va finir par l'appeler, au XVIIe siècle, l'esprit, on va totalement détacher ça du côté bas. Donc on a une espèce de... Il y a des mauvais côtés dans l'homme, ceux qui sont plus bas, des bons côtés, ceux qui sont plus élevés. Mais on va retrouver ça jusque chez Freud qui dit, bon, ben, les bas instincts du ça, il faut les sublimer. Si on ne parvient pas à les sublimer, on est quand même dans une drôle de misère. Donc, quand je parle de Freud, on est déjà au 19e siècle, 20e siècle, donc à la coupure des deux. Et je dirais que Freud n'est pas encore connu des gens. Il est encore en train d'être connu. Donc, tout ce qu'on raconte là, c'est encore fort populaire. C'est en plein boom, quoi. Il y a une grosse scission qu'on fait entre le corps qu'on emploie comme un objet et qu'on utilise dans les médias pour faire vendre des choses, le corps de la femme pour l'instant, mais le corps de l'homme va suivre, enfin, le corps objet. Et puis, il y a l'esprit qu'on laisse un peu à part et qu'on influence par la publicité, d'ailleurs. Donc, on influence les deux séparément. Maintenant, il faudrait voir qu'un être humain n'est pas séparé. Le corps, enfin, l'âme englobe le corps. Le corps fait partie de l'âme. Hein, au départ, voilà la donne de départ. Mon corps fait partie de mon âme. Mon corps, c'est moi. Je suis mon corps. Hein, mon corps est une maison de Dieu, d'une certaine manière. Mais ça, c'est naturellement un point de vue qui n'arrange personne. Hein, parce que si je suis unitaire, mais plus personne ne peut m'influencer. La publicité n'a plus de prise sur moi. Et voilà, ça n'arrange personne, quoi. L'État ne sait pas comment gouverner les gens. Si on ne le tient pas par sa sexualité, s'il est libre de penser comme il veut, il est libre, Max, hein, je pense, cette chanson. Si on est comme ça, ben, qui nous gouverne ?
Après la Révolution russe en 17, on a vu en effet les modèles éclater et une grande permissivité des autorités à cette époque-là. Les gens commençaient à pouvoir vivre avec qui ils voulaient au niveau des familles. Et puis il y a eu une grande marche arrière. Il y a eu une expérimentation très clairement affirmée par rapport à l'homosexualité, par rapport à les vies de groupes qui pouvaient être croisées et multiples. Et puis, il y a eu comme une prise de panique des autorités et une grande remise en marche arrière qui a même remis des homosexuels en prison, enfin, un tas de choses comme ça.
Oui, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres a permis à des gens comme Reich, etc., finalement de développer l'idée de la sexologie, hein, celle qui va faire long feu, hein, qu'on va encore connaître maintenant. Il y a encore des formations de sexologues. Donc Reich, il a connu une certaine libération, mais il ne faut pas oublier que Reich, il a été chassé à droite à gauche, hein, c'est-à-dire il a dû quitter l'Allemagne, il a dû aller, je crois, en Norvège ou en Suède, et puis là aussi, il a été chassé, interdit de pratiquer, etc. Puis il est parti aux États-Unis, où il s'est fait passer pour un rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Hein, et puis aux États-Unis, bon, on a fini par le tuer. Enfin, il est mort.
Le projet Torgon, là, qui dérangeait un peu, mais qui inquiétait aussi. La CIA était curieuse. Enfin,
c'est-à-dire que Reich était probablement un homme qui avait envie de gagner beaucoup d'argent facilement, donc il avait fabriqué des instruments. Mais ça, c'est pas tellement original dans une Amérique où tout le monde essayait de gagner beaucoup d'argent. Donc, il ne faisait qu'être américain comme les autres, mais il s'amenait avec l'énergie vitale, qui est quand même un truc qui faisait peur à tout le monde. Comment augmenter son énergie vitale, devenir un être complet, hein, parce que lui, il réunissait le corps à l'âme. Hein, très clairement, il ne faisait pas de distinction entre le corps et l'âme, tout était pour lui psychosomatique. Et là, il racontait des choses qui dérangeaient. Donc, ce n'est pas son enrichissement et le fait qu'il soit un margoulin, c'est ce qui l'a amené en prison d'ailleurs, qui est un problème. C'est surtout ce qu'il y avait en dessous, hein, ce qu'il défendait, cette énergie vitale qui devait rendre les gens sains. Bon, ben là... Là, il dérangeait vraiment beaucoup. Et là, il dérange encore toujours. Un Reich revient, on le remet en prison.
Quelle place tu mets à la femme dans cette approche polyamoureuse ?
Je crois que la femme est... pas l'avenir de l'homme, parce qu'elle est déjà dans le présent de l'homme. C'est-à-dire, elle est en train de diriger le monde. Elle est en train de le réorienter. Et que cette tendance a commencé dès qu'elle a pu, dès que la technique s'est développée. C'est un de ces paradoxes de la technique. À la fois la technique, c'est quelque chose qui a nuit. À la fois la technique a permis à la femme de se désincarcérer et de sortir de la prison dans laquelle elle était mise, où il fallait produire des gosses, rester à la maison, s'occuper des tâches du ménage. La libération de la femme a commencé, on pourrait dire, avec la machine à laver et ces choses-là. Et puis lentement, elle s'est mise à réfléchir quand elle était... qu'elle était dans les possibilités de pouvoir le faire. Et elle n'a pas arrêté depuis. Et je crois que la femme est vraiment à la pointe de tout ce qui est développement culturel futur. Les nouveaux philosophes, beaucoup de nouveaux philosophes sont des femmes. Mmh. Ceux qui s'occupent du transgender et des choses comme ça sont des femmes. Boursier est une femme. Enfin bon, il y a plein de femmes qui s'occupent de tous ces mouvements sociaux nouveaux. La plupart des médecins sont des femmes. La plupart des avocats, enfin des avocats, ce sont des femmes. Enfin, la femme est en train de prendre une place extrêmement importante dans le monde et remet l'homme à sa place d'une certaine manière.
C'est ça.
C'est-à-dire permet à l'homme de respirer, hein, aussi. Ça, c'est aussi paradoxal. L'homme peut se sentir minoré, mis de côté, c'est la femme qui prend sa place. D'un autre côté, il devrait être heureux, il est un peu mis à la pension, mis à l'arrière-plan, il peut réfléchir, il peut s'asseoir, il peut respirer, hein, pour passer dans le relais plus tard, hein, mais pour l'instant, ben, je crois qu'il doit prendre l'arrière-plan, hein, et être dans l'opposition, faire une cure d'opposition, comme diraient les politiciens. Hein, donc c'est un peu comme ça que ça se passe, et laisser la femme faire. Quand on regarde par exemple des reportages qui parlent des femmes d'islam, etc., et de leurs relations avec les hommes et des mariages multiples, ce que la femme dit, c'est « je veux sortir de là, et je veux avoir mon homme à moi ». Hein, donc ça, c'est le discours premier. Et... quand on regarde en Europe, on retranspose ça, on regarde la femme ici, c'est non seulement avoir mon homme à moi, mais avoir ma sexualité à moi, et moi pouvoir éventuellement donner à d'autres hommes l'autorisation de m'approcher. Hein, et je me libère d'une certaine manière, c'est-à-dire la libération de la femme va jusqu'à la libération de sa sexualité et l'affirmation effectivement de ce vouloir tenter d'autres expériences qu'un seul homme pour toute la vie.
C'est ça.
Et de ne pas vouloir être la possession de quelqu'un, quoi. Pas vouloir être un meuble qu'on échange. Hein, mais c'est une... on échangeait les femmes comme on échangeait les vaches, etc. à l'époque. Hein, la femme avait une valeur marchande, d'une certaine manière. Donc tout ça est en train de changer très rapidement. Et c'est tout nouveau.
Françoise dit dans un de ses livres, Françoise Saint-Père, ben, biodiversifier ses amours, c'est le sous-titre d'un de ses livres. Comme quoi, ben, on dit, les écologistes disent ne mettons pas de copyright sur le vivant, mais elle va un pas plus loin en disant ne mettons pas de copyright sur les amours vivants.
Exactement, exactement. Les amours vivants font partie de la biologie de l'être humain. Oui. Et Saint-Père insiste aussi sur la relation amoureuse qui n'est pas forcément sexuelle. Hein, donc ça. Elle met aussi l'accent là-dessus en disant polyamoureux, il faudrait entendre sur le mot, il faudrait être bien clair. Hein, soyons polyamoureux. La sexualité, ben, ça, c'est une autre paire de manches. Et si on laissait faire la femme, si on la laissait décider, peut-être bien qu'elle, qu'elle est moins possessive, peut-être bien qu'elle voit les choses autrement.
Et ça me ramène aussi à ben justement l'éducation, puisqu'on parle de ça maintenant, c'est-à-dire peut-être que l'information et l'éducation ben, est quelque part le combat aussi à mener. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je pense peut-être au milieu scolaire, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes ces attitudes. Moi, je suis assez effrayé parfois d'entendre des enfants de 8-12 ans réagir de manière extrêmement rapide, dès qu'ils ont, ils sont dans des périodes de présexualisation, et ils observent énormément leurs aînés, qui ont quelques années de plus, ou même leurs congénères, et tout de suite ils vont avoir un réflexe de « tu tiens la main, donc tu es pédé, tu as fait un bisou, une fille se font un bisou, ce sont des lesbiennes ». Bon, ils approchent ces modèles, c'est comme si en même temps c'était effrayant, mais ils sont tout de suite aussi dans codifier et en fait écouter ce que les adultes disent derrière eux. Mais donc, comment est-ce que toi tu imaginerais tout doucement être dans l'idée de mettre en place quelque chose d'un peu plus, vaste et plus ouvert vers les enfants? Comment est-ce qu'on pourrait leur parler parce que dans le document, les professionnels en psychologie devraient savoir, donc il y a aussi la référence à l'idée est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans les manuels que le polyamour est aussi une forme de... dans les manuels scolaires, enfin, ou autre, quoi. Parce que dans le milieu homo, je pense qu'il y a aussi une tendance, actuellement, aux États-Unis notamment, il y a des communautés qui demandent que, dans les héros, dans les histoires, dans les légendes, on parle plus de relations homosexuelles, par exemple.
Oui. Il y a déjà des films qui parlent de l'homosexualité. Hein. Le film de Cowboy, là, je ne sais plus comment il s'appelait, mais où il y avait deux cowboys qui ont quand même les archétypes de l'homme, hein, qui avait une relation homosexuelle. Bon, ben, c'est un peu, hein, un peu étonnant. Oui, mais je ne me souviens plus du titre. Mais enfin, c'était un chouette film. Maintenant, l'éducation, ça, c'est une grande histoire. Ça commence avec la mère. C'est toujours la mère qui éduque l'enfant, qui donne la toute première éducation. Et ça commence très petit. Ça commence dans le sein maternel. Ça commence au niveau du fœtus qui arrive, hein, quasiment. Et puis, il y a ce lien non-dit, avant même la parole, donc pré-verbal, avec les petits garçons et les petites filles, où sont communiqués par la mère tous ces messages que tu es un petit garçon et voilà qui tu vas devenir, tu es une petite fille, voilà qui tu vas devenir. Et c'est bien la femme qui a toujours fait ça. Hein, c'est bien la femme qui a fait l'homme tel qu'il est et qui a fait la femme telle qu'elle est. Donc ça commence par la femme. Et la prise de conscience que fait la femme va forcément influencer les petits-enfants quand ils sont tout petits, et va déterminer par après ce qu'ils vont devenir. Hein, donc, moi, je crois que tout dépend, c'est cette éducation première dépend essentiellement de la femme. Hein, c'est elle qui communique sans parole, hein, qui nous sommes tout à fait au départ. Et c'est quelque chose de très mystérieux. On n'a toujours pas compris ce que c'est. Mais quand on entend une dolto, elle dit ben la petite fille, mais la fille bébé, quand elle a un mois, quand elle voit son père venir vers elle, elle le regarde. Le petit garçon bébé, quand il voit le père venir, il se tourne vers la mère et il se cache. Donc, même à cet âge-là, même à un mois, le gosse sait très bien reconnaître, hein, selon dolto, si c'est un homme qui approche, si c'est une femme qui approche, et qui il est. C'est-à-dire, reconnaît sa sexualité, sait qu'il est un petit garçon comme papa ou une petite fille comme maman.
C'est ça.
Hein, et vers qui il est attiré et vers qui il n'est pas attiré. Donc, dès les premières heures, alors Dolto raconte ça, mais Dolto, elle est attirée par les hommes. Donc, si elle a une petite fille, ben, ce qu'elle communique à sa petite fille, c'est les hommes, c'est quelque chose de bien, par lesquels les femmes sont attirées. Hein, donc, c'est l'attitude de la mère, hein, et de maman Dolto aussi, de communiquer à cette petite fille que les hommes, il faut les regarder, et de communiquer aux petits garçons que les hommes, il ne faut pas regarder, il faut regarder les filles. C'est elle qui communique ça, d'une certaine manière. Il y a une espèce de communion entre l'enfant et la mère. Alors ce sera l'attitude de la mère Mais c'est une attitude très profonde vis-à-vis de son mari, vis-à-vis des hommes qui l'entourent, qui vont influencer la petite fille qu'elle aura et le petit garçon qu'elle aura.
Et le petit garçon, il chantait Big Bisou, d'ailleurs, plus tard.
Tout à fait, tout à fait. Il a chanté Big Bisou plus tard. Et peut-être bien, voilà. Peut-être bien que c'était un homme qui était à la fois féminin, hein, qui avait un côté féminin assez affirmé, qui n'avait pas... C'était un homme, un vrai, mais à la fois, hein, les femmes ne le fouillaient pas. C'était pas le genre à faire peur, voilà. Hein, donc, peut-être bien, hein, naturellement, il faudrait le connaître mieux pour en parler comme ça. Mais voilà. Donc, je crois que l'éducation, ça commence extrêmement petit, et surtout la sexualité, tout ce qui concerne la sexualité, la sensualité, ça commence dans la période préverbale de 0 à 2 ans, à 3 ans, mettons. Hein, tout se déroule là, enfin, le fondement se déroule là. L'aisance qu'on aura vis-à-vis de l'un ou l'autre sexe, c'est là que ça se passe. Et ça se communique via maman, ou celle qui en tient lieu, naturellement. Ou via, s'il y a des papas qui jouent maman actuellement, il y en a, via donc la personne qui tient lieu de mère, qui est un homme éventuellement. Hein, c'est lui, à ce moment-là, qui va communiquer ces valeurs-là.
Et pour revenir une dernière fois au document dont on parlait tout à l'heure, il y a la question de dire ou pas dire aux enfants dans les couples polyamoureux, à leurs enfants, voilà, on est dans ces relations. Et c'est la question de savoir quelle attitude à avoir par rapport à ça.
Ben, c'est l'attitude comme vis-à-vis de tous les autres problèmes. C'est-à-dire, on peut leur dire si le gosse demande. Dès que le gosse a demandé, il faut l'informer d'une manière à ce qu'il puisse comprendre. À ce que ce ne soit pas ambigu et qu'il ne soit pas replongé dans une espèce de mystère. Donc, pouvoir parler le langage de l'enfant à l'âge qu'il a et au moment où il est intéressé par la question. Lui dire ça comme ça, de but en blanc, ça n'a aucun sens, sinon de l'effrayer. Donc, le gosse, qu'il a besoin de savoir, ben, il demande. Et puis, on lui dit.
Moi, je rajouterais peut-être aussi, parce que je l'ai vécu dans ma famille aussi, avec ma fille, à un moment donné, elle est beaucoup plus âgée, elle a 18 ans aujourd'hui, et donc elle avait entamé l'idée de faire un travail dans le cours de morale sur le polyamour. Elle a eu 9 sur 10, quoi. Ça a intéressé toute la classe apparemment, c'était magnifique. Et un an plus tard, mon aventure polyamoureuse était moins brillante, et elle a commencé à avoir un peu de stress. Et donc j'ai l'impression aussi qu'un enfant va se faire sa propre opinion en observant ses parents, en se disant, tiens, ça a l'air de marcher, ça a l'air bien. Mais là, je prends déjà l'idée où l'enfant est au courant. Il a l'air de trouver ça positif. S'il voit ses parents heureux, évidemment. S'il voit que ça amène du stress, il a plutôt tendance peut-être à désapprouver.
Oui, hein, oui, d'autant plus que c'est une aventure que font là les parents. Dans un couple normal, si ça va mal, l'environnement va leur dire « oui, mais les couples, c'est comme ça ». Tandis que si on fait une tentative, par exemple, polyamoureuse, et que ça ne marche pas, l'environnement aura tendance à dire, sans le dire, hein, on le dit sans le dire, de « oui, bon ». Hein, voilà ce qui arrive hein, dans ce cas-là. Hein, si on cherche des emmerdes, voilà qu'on les trouve. Quoi. Donc l'enfant va être influencé, oui, confirmé dans son doute. Enfin, c'est toutes les tentatives à être originales se heurtent chez l'adolescent. L'adolescent, lui, il essaie de faire partie de son monde. Hein, mais même s'il est un peu braque, il essaie de faire partie du monde. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Hein, et s'il rencontre des gens qui sont vraiment... hors du monde, il ne va pas s'y attacher. Hein. Il veut porter ses chemises Marlboro comme tout le monde. Quoi. Enfin, je veux dire, même s'il est adolescent, même s'il est contre tout, il veut être dans la norme. Donc, pour sortir de la norme, je dirais, le polyamoureux, pour vraiment sortir de la norme, il faut imaginer des personnes de plus de 21 ans, pour bien faire de plus de 25 ans, et qui ont déjà une expérience de couple, qui ont pu voir que ça ne leur convenait pas. Et se porter à la recherche d'autre chose. Hein, donc le polyamoureux, je ne crois pas qu'actuellement on peut le trouver sous sa forme 15 ans, 20 ans, mais dans les gens qui se posent des questions.
Et justement, tu parles de l'âge, et je me dis, moi j'avais parfois imaginé aussi que à l'adolescence, on est dans une belle expérimentation, qu'on est déjà dans des croisements de partenaires, hein. On pense souvent à ces adolescents qui, dans un groupe de 10, 20, 30, s'échangent un petit peu les petits copains, il y a déjà des tentatives comme ça, et puis après ils en parlent aussi entre eux. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas là peut-être quelque chose d'assez naturel et spontané, puisque c'est les premiers âges des découvertes des pulsions, du désir, et qu'après, enfin moi c'est ma théorie, mais qu'après... il y a cette chape de la société qui oblige un peu à beaucoup de ces jeunes de s'enfermer dans les modèles.
Tout à fait. C'est-à-dire que ils ont des aventures multiples, mais on peut observer quand même que c'est dans le successif. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est l'une après l'autre. Et tant que ça reste l'une après l'autre, on ne nous embête pas trop. Maintenant, ce que le polyamoureux va prétendre, c'est l'une en même temps que l'autre. Mm-hmm. Et c'est ça sa grande originalité. C'est là qu'il heurte aussi. Hein? Donc la plupart des gens ont dans leur vie une série de relations, mais pas simultanées. Si c'est simultané, il y a un des partenaires qui se sent trompé, qui se sent mal de par ce fait-là. Donc, à l'adolescence aussi, il est rare de voir des adolescents avoir des relations multiples simultanées. C'est mal compris par les autres.
C'est parfois un peu perméable, comme j'ai l'impression. Les fins d'histoire ne sont pas toujours finies. Il y a toujours un début qui n'est pas un début, mais il me semble. Hein.
Oui, je crois que ça persiste à l'âge adulte aussi. Oui. Hein. Et jusque-là, on est... comment dire ça, un monogame avec des relations successives, avec des frontières qui sont peut-être un peu vagues, mais on n'est pas encore passé dans cette idée polyamoureuse qui demande vraiment avoir un cœur beaucoup plus vaste, à imaginer des amours à un niveau plus ou moins égal pour plusieurs personnes tout à fait différentes. Hein, donc, et vivre des relations, c'est-à-dire c'est passer d'un monde dans l'autre, c'est avoir dans son âme un contact avec plusieurs mondes. Hein, une relation, je ne sais pas, pour moi, une relation avec une femme, eh ben, c'est un monde qui s'ouvre, et même si j'en connais deux à la fois, ben, c'est deux mondes qui s'ouvrent, ce n'est pas le même monde dans lequel il y a deux femmes. Hein, c'est vraiment pouvoir passer d'un monde à l'autre et élargir le sien. Hein, donc c'est une... toute une tentative existentielle, profonde, qui remet en question la personne. Polyamour n'est pas simple. Je ne sais pas si la mère ne communique pas ça au berceau, je ne sais pas si on peut apprendre ça facilement. C'est comme apprendre plusieurs langues. Hein. Polyamour, c'est comme devenir polyglotte, c'est aussi poly. Apprendre une langue, c'est pas simplement apprendre des mots. Mm-hmm. C'est rentrer dans la philosophie de la langue, dans la poétique de la langue, il faut des années pour apprendre une langue différente. Et si on a appris ça à la naissance, ben c'est une langue maternelle, on peut en avoir plusieurs, et c'est facile. On les parle sans faire le moindre effort. Si on les apprend par après, ça reste toujours une langue étrangère, ça reste toujours compliqué. Hein, donc je crois que polyamour, ça se conjugue de la même façon. We'll be right back.
faisons-nous un peu plaisir, parce que je sais que tu as une belle expérience aussi d'écoute, hein, en termes d'accueil de patients, de personnes en tout cas en demande d'évolution. Et moi je pense évidemment à tous ces déçus de la monogamie, et j'imagine que dans ton cabinet de consultation, il y en a quand même plus qu'un. Donc moi je suis un peu dans l'archétype, mais enfin bon, le couple marié, 10 ans, 20 ans, et puis la révélation, voilà, le mari vient parler de ses amantes, la femme de ses amants, et donc là on est dans le schéma où des gens, à un moment donné, sont obligés, parce qu'ils ne trouvent peut-être pas d'échappatoire aussi, de s'inscrire dans le schéma classique de « on ne va pas dire à l'autre qu'on a quelqu'un, et puis on fait ou l'autre sans doute mais fait semblant que, et ça arrange tout le monde ». Et est-ce que dans cette population-là, que je n'ai pas envie de juger, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce genre de gens à qui on pourrait maintenant, parce que tu dis que ça s'apprend en berceau, mais est-ce qu'à un moment donné, des gens un peu déçus des modèles monogames ne peuvent pas aussi tenter l'aventure est-ce que ça peut être libérateur, ou est-ce que toi tu serais tenté de dire ça à des gens dans ton cabinet par exemple, que ça peut être un modèle, ou comment tu fais quand les gens amènent une souffrance dans des relations multiples qui n'assument pas quelque part en termes de franchise?
Souvent quand les gens viennent avec un problème, c'est fini déjà, c'est-à-dire ils ont quitté une relation et ils viennent avec un constat d'échec, ça n'a pas marché, et je me remets à la recherche d'un nouveau grand amour, et voilà, donc on essaie de refaire ce qu'on a raté, mais avec une autre personne, en se disant que ça va aller mieux, enfin bon. Hein, de là à penser la relation multiple, rares sont les gens qui pensent spontanément à ça. Maintenant, dans mon métier de psychothérapeute, il y a une partie de psychopédagogie, c'est-à-dire on peut leur apprendre, on peut leur dire, bon ben voilà, il existe une alternative. Hein, cela existe, et dans cette mesure-là, ce serait intéressant d'avoir par exemple une brochure, d'avoir quelque chose d'informatif sur cette possibilité-là, hein, sur cette alternative. Maintenant, il faut être prudent avec ça aussi. Hein, la plupart des gens ne sont pas du tout prêts à faire ça. Hein, donc c'est quelque chose de tout nouveau. C'est un peu comme la sexualité chez Freud quand on en parlait au début du XXe siècle, en 1910 ou quoi, quand on parlait de sexualité, il fallait être très prudent, encore maintenant, 100 ans plus tard. Bon, le polyamour, c'est un truc qui va peut-être dans 150 ans, ce sera tout à fait banal, mais pour l'instant, c'est encore une idée un peu...
Mais en même temps, tu dis ça, et en même temps, je sais que tu as aussi fait des études d'anthropologue, si je ne me trompe pas. Et donc, tu es aussi bien au courant qu'à d'autres endroits, à d'autres lieux, à d'autres époques, il y a eu des tentatives, il y a de la polygynie, il y a de la polyandrie, il y a des gens qui s'assemblent parfois dans des modèles familiaux autres simplement pour la survie du groupe, où on a constaté par exemple qu'une femme qui vit avec plusieurs hommes, au niveau des récoltes de la culture, en fait, il y a plus de nourriture pour la famille, il y a moins d'épuisement de chacun, puisque les tâches sont réparties, il y en a qui coupe du bois, l'autre qui sème les champs. Donc ça a été parfois des modèles de survie, où on sait que chez les Inuits, ça c'est Jacques Attali qui le rappelle dans son livre « Amour », on échange des enfants, donc un enfant qui naît dans une famille, on va le donner à une famille qui habite à 10 km, il va grandir là-bas, et puis on va accueillir un autre, et on sait pourquoi on le fait, et la réponse est simple, c'est ben, on ne va pas se faire la guerre, on ne va pas se faire la guerre puisqu'on sait qu'on a fait, et donc il y a une espèce de tribu un peu mixte qui se met en place.
Oui, donc il y a des modèles comme ça, mais ça existe dans des petites tribus, hein, voilà, dans des petites unités, et même dans ce cas-là, c'est extrêmement cadré. C'est-à-dire qu'il y a des règles immuables auxquelles on peut se tenir, tout le monde les connaît. Hein, comme je disais, la mère communique ça à la naissance, avec le lait maternel, et communiquer ce modèle, l'existence de ce modèle est acceptée par tout le monde. Et tout le monde connaît ce modèle, sait que cet enfant vient de là, et qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Mais chez nous, on n'a pas ce modèle. Hein, on a d'autres modèles sur lesquels, qui sont aussi cadrés, qui sont aussi très structurés. Donc c'est toute une... Et on est aussi à beaucoup plus. Hein, c'est-à-dire que ce que vit l'Occident, on n'a jamais vécu ça avant. Hein, il n'y a pas de référence dans l'histoire. On est à près de 7 milliards d'habitants sur ce monde. On n'a jamais vécu ça. Des villes comme on les connaît maintenant, on n'a jamais vécu ça. Quand on parle d'Inuit ou de petites tribus comme ça, mais c'est je sais pas moi, jusqu'à maximum 1000 personnes, et encore, c'est déjà beaucoup de monde. C'est quand même pas comparable à ce qu'on vit maintenant.
Mais en même temps, oui, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a parfois un travail de mémoire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean Marcal qui a écrit « La femme celte ». Et à l'époque, l'impérialisme romain était un peu comparable aujourd'hui à certaines idées fortes qui écrasent tout. Et on sait aussi clairement qu'une femme, par exemple, qui quittait son mari à l'époque, retrouvait ses droits, pouvait partir avec l'idée qu'un mariage était beaucoup moins sacralisé. Et apparemment, il y avait aussi des permissivités. Par exemple, un homme pouvait avoir une amoureuse, une amante, quelqu'un qui partageait sa sexualité pour des contrats d'un an et que la femme devait valider ou pas. Enfin, il y avait d'autres modèles. Et là, je me dis, tiens, il y a un travail de mémoire. C'était quand même chez nous il y a 2000 ans. C'est pas si vieux, quoi.
Ce n'est pas aussi avéré que ça en a l'air. Hein, c'est-à-dire qu'on prétend une série de choses, on fait des hypothèses, à partir de peu de documents qu'on a, surtout oui. sur les Celtes, on a vraiment très peu de documents. À partir de documents qu'on a, on se dit que... Hein, mais en général, d'après ce qu'on a pu observer dans toutes les tribus qu'on a pu connaître, que les anthropologues ont pu observer, une tribu, c'est quand même dirigé. Hein, que ce soit par des hommes ou par des femmes, et c'est administré. Il faut pouvoir administrer les gens qui sont là, hein, ne serait-ce que pour ne pas faire la guerre, pour distribuer le travail, etc. Et tout est beaucoup plus structuré qu'on ne pense. Et la sexualité, partout, est structurée aussi. Alors, il y a des modèles qui sont plus libéraux à gauche ou à droite, mais en tout cas, il y a une structure qui permet ça. C'est-à-dire, il faut que ça marche. Hein, c'est toujours là-dessus. Hein, qu'on retombe. Il faut que ça marche. Alors un modèle polyamoureux peut marcher, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc pourquoi pas le polyamour, pour peu que tout le monde se mette d'accord. Mais dès qu'il y aura le polyamour généralisé, tu verras qu'il y aura beaucoup plus de règles que ce qu'on croit. Tu peux être polyamoureux, mais comme ci et comme ça, et puis avec des codes civils qui seront plus le même que maintenant, mais codes civils quand même. Hein, et si tu fais pas ce qui est marqué dans le code, ben, tu vas en prison quand même, hein, ou tu es pénalisé d'une manière ou d'une autre. Donc, si une société
ça demande... Ça va décevoir tous les post-anarchistes, hein, ce que tu es en train de dire.
Oui,
polyamoureux post-anarchistes.
Malheureusement, oui. Hein. Oui, donc il y a une espèce de gouvernance. Peut-être c'est l'époque d'or du polyamour maintenant, parce que ce n'est pas encore structuré, ouais, parce que ça offre une possibilité de rêver. Une fois que c'est là... Ben, bon, on s'aperçoit que ça a un certain poids quand même. Il faut quand même que la société vive, il faut éduquer.
Oui, parce que le ministère des Finances, comment il va taxer, quoi, voilà, les nouvelles familles.
Et il voudra taxer. Hein. C'est ce qui est certain, c'est qu'il voudra taxer. Et qu'au ministère se trouvent les gaillards qui seront aussi des polyamoureux. Hein. Ils connaîtront de l'intérieur cette histoire. Ils diront comment trois femmes est une pique pour deux, mais si, hein, faut payer plus. Enfin, donc c'est évident qu'il y aura... Il y aura une nouvelle structure qui viendra. Donc, peut-être prendre les choses pour ce qu'elles sont. Dans une époque polyamoureuse, généralisée, il y aura peut-être des gens qui seront fiers de ne pas participer au mouvement. Et l'anarchiste, il aura une femme à lui et dira, dans l'histoire, il y a eu ça. Je me souviens, au XXe siècle, il y a des documents qui disent que chaque homme avait sa femme. Hein, et on sera au XXIVe siècle et dira, ah, c'était quand même le bon temps. Hein. Donc, on est dans un mouvement. L'anthropologue regarde un peu ce qui est, ce qui fonctionne, ce qui marche. Hein. C'est beaucoup plus réaliste que ce qu'on ne pense. Bien sûr, il y a des gens qui inventent des histoires et qui font rêver, et c'est tant mieux qu'il y en ait. Dans la réalité, elle est quand même drôlement structurée pour que ça marche, hein, pour que ce soit fonctionnel. Donc il faut pouvoir regarder ça aussi, la psychothérapie aussi. On retombe toujours sur le fameux principe de réalité de Freud. Hein, ce qui n'est pas fidèle au principe de réalité a peu de chances de marcher. Alors on peut tourner ça comme on veut, mais il y a une réalité, pas seulement une réalité matérielle, celle-là on peut l'appréhender facilement, il y a un mur qui est là, je m'y cogne, ben je vois qu'il est là, mais une réalité sociale aussi, contre laquelle on peut se cogner, c'est aussi des murs, même si ça n'en a pas l'apparence, mais voilà, donc... Une société se durcit, crée du réel, et l'être humain, donc la nature humaine, c'est sa culture. Hein, nous sommes des êtres de culture, pas des êtres naturels. On croit qu'on est des êtres naturels. Bien sûr, on est des morceaux du monde, des morceaux de nature, mais notre nature profonde, c'est notre culture. Hein, c'est-à-dire, je fantasme un peu, mais un enfant élevé chez les loups, un humain va essayer d'être un loup. Un chien éduqué par des êtres humains ne va pas essayer d'être un être humain. Il va rester un chien avec quelques névroses humaines en plus, hein, parce qu'on l'aura traumatisé, cette bête. Mais voilà, restera un chien. Mais un petit homme parmi les loups, un Mowgli, là, va essayer d'être un loup. Il va tout faire. Il va absorber la culture du loup pour être un bon loup parmi les loups, alors qu'il n'y ressemble pas du tout. Donc l'être humain est un être de culture, vraiment, c'est qui ça. Va absorber ce qu'il y a où il est. Et il absorbe ça dès avant sa naissance. Il est déjà occupé à absorber tout ça. Donc nous sommes très intelligents, mais aussi le désavantage de notre intelligence, c'est qu'on absorbe vraiment tout et qu'on est poreux parce qu'on veut vraiment s'adapter à ce qu'il y a là autour de nous. Donc dans un monde polyamoureux, ben, ça ne posera pas de questions. Tout le monde sera polyamoureux, comme ça, par naissance.
Hein. Moi, ça me fait penser à Diogène, ce que tu disais, parce qu'en fait, on sait que cet animal a vécu dans un, dans un tonneau et avait beaucoup de respect pour l'animal, à tel point qu'il faisait l'amour dans la rue avec sa femme, il se masturbait en public et il disait « il n'y a que les chiens qui sont libres » et qui sont philosophiquement peut-être dans une recherche de proximité de l'état de liberté du libre penseur absolu, puisque le chien, il mange quand il veut, il fait l'amour quand il veut, il est libre. Mais nous, les hommes, en fin de compte, on n'est pas libre.
Mais voilà un grand philosophe, hein, si on veut, c'est-à-dire un Diogène qui prend le risque de se rééduquer, hein, en se comparant à un chien et de quitter l'humanité. Hein, ouais. Donc ça demande un courage invraisemblable. Hein, heureusement qu'il est reconnu par les autres. En général, on se fait lapider quand on est comme ça. Mais probablement qu'il était en plus très intelligent, donc pas un fou, et qu'il pouvait raconter, qu'il pouvait expliciter aux autres pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Hein, mais voilà, il faut une dose de courage énorme pour pouvoir se permettre ce que faisait là Diogène. Pour être un marquis de Sade, il faut beaucoup d'intelligence et un sens artistique certain, parce qu'il écrivait bien, mais il faut un courage énorme pour écrire tout ça.
Mm-hmm. Oui, parce que lui, il allait jusqu'à dire que, par exemple, un parent avait le droit de vie ou de mort sur son enfant, puisqu'il il lui avait donné la vie, il pouvait la retirer. Donc c'est quand même assez, assez audacieux comme pensée.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, bon, ben...
Mais là, on est proche peut-être de l'animal. Il y a plein d'exemples dans la nature où une mère va pondre un œuf et puis elle va en choisir quelques-uns seulement. Elle va parfois assister. Moi, j'ai vu ça sur un animal, une espèce de canard, là, qui... Il n'y a que la place que pour un. Et donc, il y a l'aîné de la naissance qui va pousser l'autre en dehors du nid, quoi. Et la mère assiste et laisse faire, quoi. Et on voit l'autre qui s'en va, qui n'est pas assez costaud pour aller téter, quoi.
Oui, donc ces tâches-là ont été prises en charge par la société, mais on peut imaginer un monde où c'est la mère qui décide de sa progéniture. Mais rapidement, l'homme ou les hommes ou la communauté ou la tribu va prendre donc le pouvoir sur le fruit des entrailles de la femme. Elle ne va plus pouvoir faire ce qu'elle veut avec sa progéniture. Donc ça fait partie du groupe humain, hein, où l'un va observer l'autre et on ne peut pas faire ce qu'on veut de ses enfants. Donc on est dans un monde comme ça qui, il y a très 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 longtemps, a commencé à se structurer et il y a eu un bénéfice qui a été vu des enfants. C'est les enfants de la tribu, c'est pas l'enfant de cette femme. Hein, et voilà, étant donné que c'est des enfants de la tribu, elle n'en dispose pas. Hein, et bon, jusqu'à atteindre des philosophies comme celle de Krishnamurti qui dira « tes enfants ne sont pas tes enfants, hein, ils appartiennent à l'humanité et tu n'en fais donc pas ce que tu veux. » Hein, donc ça c'est le degré de civilisation, on pourrait dire, le plus haut. Hein, de dire « ça ne t'appartient pas ». Bien sûr que la nature prévoit que tu les produis, mais c'est tout. Ça ne t'appartient pas. Bon, ben voilà, quoi. Hein. Donc, on a à la base « ça m'appartient, je fais ce que je veux ». Et alors, tout à fait au-dessus, ben non, ça ne t'appartient pas et tu ne fais pas. C'est des créatures de Dieu. En ce sens-là, la religion est une bonne chose, mettons.
Mais ça me fait penser à une amie polyamoureuse qui vit avec plusieurs hommes et qui se posait la question de savoir, tiens... Dans quelques temps, elle imaginait avoir des enfants. Elle était en relation avec trois personnes, de manière assez équitable. Et elle est un petit peu dans ses réflexions-là, en dire, tiens, mais avec lequel je vais faire un enfant et comment ça pourrait se passer dans le rapport entre les autres partenaires? Est-ce qu'il serait aussi un peu des pères ou est-ce que... Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là.
Oui, hein, donc il y a aussi un besoin d'une spiritualité du polyamour. Hein. Donc comment considérer ça spirituellement, philosophiquement? Comment justifier ça d'une certaine manière? Un enfant né. Bon, est-ce que c'est l'enfant de la communauté? Mais si on dit oui, c'est l'enfant de la communauté, il faut changer son idée de l'enfant appartenant à une mère et à un père. Il faut commencer à se fabriquer une autre matière spirituelle dans laquelle l'enfant serait le fruit de l'ensemble. Hein? Venu des entrailles d'un tel, certes, mais le fruit de l'ensemble. Hein? Donc ça demande toute une... toute une manière de voir, toute une capacité à, de l'esprit à spiritualiser à, cet enfant, à l'entourer autrement.
C'est donc ici que se termine cette première émission avec Raymond. La suite dans un mois sur cette antenne ou sur le site de polyamour.be. Pour en savoir plus sur les formations que Raymond propose dans son école d'accompagnement de la vie, rendez-vous sur mantica.com. Je vous rappelle les différentes diffusions sur Radio Campus, chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h, en fréquence modulée 92.1 MHz à Bruxelles. Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, Chill Out du groupe Jazz U, Obscure Terrain du groupe Revolution Void, Bzenjat Reget du groupe Lul. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site de musique libre jamendo.com. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies.